Sanivac est la solution. On a ce qu'il faut, quand il faut. Livraison et service rapide offerts en 24 heures. Inventaire, service, qualité, peu importe tes besoins, choisis Sanivac. Aliment Ludo, c'est une variété de pizza 9 et 12 pouces, comme au resto. Goûtez notre vraie sauce à la viande du bas du fleuve. Et ce n'est pas tout. Pâté à la viande mexicain ou poulet cuisiné comme à la maison. Aliment Ludo, dans un supermarché près de chez vous. Depuis plus de 15 ans, le groupe GSC vous offre des formations bilingues et hybrides pour réussir vos examens de la RBQ. Votre avenir en construction commence ici, à Laval, Brossard, Gatineau et Québec, au 1995 Franck Carrel. GroupeGSC.com, formé pour bâtir. En janvier, à l'atelier, on défonce l'année 2026 avec des rabais tous les jours. Oui, oui, une promo différente chaque soir, tout le mois de janvier. Découvrez la promo du jour et réservez dès maintenant au bistrolatelier.com.
Les manchettes sportives, présentées par BPM Sport.
BPM Sport,
la radio des sports au Québec.
Hey, c'est Jordan. Une défaite pour le CH à Buffalo hier. Victoire de 5-3 des Sabres qui sont en feu avec une 15e victoire en 17 matchs. C'est surtout Tage Thompson qui a attiré l'attention pour Buffalo avec 3 buts, 2 passes, 3 tirs au but et un différentiel de plus 2. Solide Tage. Sinon, pour la Sainte-Flanelle, une soirée de 2 points pour Suzuki et Caulfield, ainsi qu'un plomb d'Ivan Demidov. Montréal reprend l'action demain soir à Ottawa contre les Sénateurs. Comment haïr encore plus le baseball quand on voit une nouvelle de même? Sauf si vous êtes un fan des boostés Dodgers de LA. Le joueur le plus convoité sur le marché a choisi sa destination. Ben oui, quelle surprise, encore les Dodgers qui sortent le gros chèque. Kyle Tucker s'entend pour 4 ans, 240 millions. Dégueulasse. Les séries de la NFL se poursuivent ce week-end. Bills Broncos demain 16h30, 49ers Seahawks demain 20h, Texans Patriots dimanche 15h et Rams Bears dimanche 18h30. Dans la LHJMQ, programme double pour les Remparts contre le Drakkar. Ça débutera ce soir 19h et demain samedi à 16h et tout ça aura lieu au Centre Vidéotron. Good job! Et dans la Ligue nord-américaine, la Nationale sera à la maison demain 19h au Complexe Sportif Bonaire. Un match contre les Pétroliers.
Pour plus de sport, c'est BPM Sport.
BPM Sport.
100.9.
Présenté par Giroir Équipement. Une équipe passionnée en machines de levage, de manutention et d'élévation de personnes. Concessionnaire spécialisé de Manitou, Giroir Équipement vous offre un service inégalé dans votre région. Giroir.qc.ca.
Choix.
Choix.
98.
98.
1.
Choix.
Choix. Radio X à Québec.
Québec.
C'est Radio X.
Choix. Radio X.
Faites-vous votre propre opinion.
Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west.
Radio X Files.
Avec Christian Page.
Oh my gosh.
Radio X.
L'observatoire du Mont Palomar, à 1800 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans les montagnes de Californie, possède le plus grand télescope parabolique du monde. Le télescope du Mont Palomar peut explorer l'espace sidéral jusqu'à une distance de 4 milliards d'années-lumière. Les enquêtes scientifiques dans le monde entier posent toutes la même fascinante question : sur combien de ces étoiles y a-t-il de la vie ?
Nous sommes le vendredi 16 janvier. Là, c'est le retour des Radio X-Files officiellement. Et bien, pour débuter l'année du bon pied, on retrouve assurément Christian Page. Bonne année 2026, Christian Page.
Bonne année à toi aussi, Nick.
Merci beaucoup. Et re-bienvenue dans cette émission, les Radio X-Files.
Ben oui, écoute, content de te retrouver, content de retrouver également les auditeurs. Et si on se pose un peu la question sur ce que l'on vient tout juste d'entendre, quelle magnifique musique. Hein, j'imagine qu'il y a toute une génération de gens qui sont à l'écoute ce soir, qui doivent se dire « Ah oui, je me rappelle de cette musique qui était fabuleuse ». C'était la musique, en 1970, un documentaire qui s'appelait « Présence des extraterrestres ». En anglais, c'était « Chariot of the God ». Le documentaire avait d'abord été fait du côté allemand, ensuite traduit dans plusieurs langues. Et on se rappelle, il y avait une musique qui était tout à fait fantastique. Ah, oui, et même encore aujourd'hui, pour le moi qui a chez moi la bande-son de ce documentaire, la pièce qu'on vient d'entendre, qui était la pièce d'introduction du documentaire, c'est une pièce qui s'appelle « Nazca ». La musique était magnifique et ça a marqué l'imaginaire. C'était un documentaire qui était léché, les images étaient exceptionnelles, la musique était renversante. Et ce documentaire s'inspirait d'un ouvrage paru 2 ans plus tôt, 1968, paru en langue allemande en premier également, sous le titre, si je devais le traduire en français, c'est « Souvenir du futur ». Et l'ouvrage a été traduit en anglais sous le titre « Chariot of the God », hein, et en français « Présence des extraterrestres ». Son auteur, Erich von Däniken, c'est un Allemand suisse, hein, né du côté de la Suisse allemande, si je puis dire. Et il est décédé au cours des... En fait, il est décédé ce week-end. Et c'est probablement, je dirais, l'un des personnages dans l'univers du mystérieux, de l'étrange, et en particulier des extraterrestres, ce Erich von Däniken, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, puis on va voir ce soir qu'il a quand même beaucoup d'opposants, mais ce Erich von Däniken a marqué l'imaginaire d'une manière là, très, très profonde lorsqu'il est question de des extraterrestres. C'est lui que l'on présente souvent comme étant le père de la théorie des anciens astronautes, okay. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, on va y revenir, mais c'est vrai que c'est lui qui l'a rendu populaire, hein? Cette théorie des anciens astronautes. Là encore, j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont à l'écoute ce soir, qui sont peut-être des férus de la série sur Historia, nos ancêtres les extraterrestres. Cette série, ben, en fait, c'est un renouveau, un regain pour cette fameuse hypothèse des anciens astronautes qui avait été lancée là, dans les années 60 et principalement sous la plume d'Erich von Däniken. Donc, Erich von Däniken, donc, comme je l'ai mentionné, qui est décédé le 10 janvier dernier, là, donc il y a moins d'une semaine
récent,
maintenant.
Oui.
Ouais, et il était né en 1935, donc il allait fêter là, au mois d'avril. Il est né le 14 avril, donc il allait fêter ce mois d'avril, son 91e anniversaire. Donc, quelques petites notes biographiques. Hein, comme je l'ai mentionné, il est né dans la Suisse allemande. Il a aucune formation en histoire ou en archéologie, hein. C'est quand même assez particulier. Il a suivi des cours assez classiques à l'école catholique Saint-Michel de Freiburg. Et d'ailleurs, il a gardé un ressentiment par rapport à cet enseignement catholique strict qui va déteindre un peu également dans ses écrits. On va y revenir. Il a gardé une dent contre l'Église un peu. Mais il l'a fait sentir. Et puis, bon, jeune adulte, c'est un espèce de touche-à-tout, un peu aventurier. Il se lance, il travaille surtout dans le domaine de l'hôtellerie, il voyage beaucoup. Il est impliqué dans des espèces de trafic un peu illicite. Il va être d'ailleurs arrêté en Égypte pour un trafic de diamants. Il est incarcéré, hein, il est reconnu coupable, et il est incarcéré. C'est d'ailleurs alors qu'il est derrière les barreaux qu'il va écrire les premières lignes de son ouvrage, qui va devenir un succès de librairie, qui va marquer la culture populaire. Ce fameux ouvrage, « Présence des extraterrestres » en français, en allemand, comme je l'ai mentionné, « Souvenir du futur », et en anglais, « Chariot of the God ». Et dans cet ouvrage, qui sera vendu, hein, c'est un énorme succès de librairie, il ne faut pas se le cacher, c'est peut-être la raison aussi pourquoi l'empreinte de Erich von Däniken a été si présente. C'est un ouvrage qui est vendu à 4 millions d'exemplaires uniquement durant les 5 années qui vont de 1969 à 1974. Et là, on se dit, ben, 4 millions d'exemplaires, quand on regarde des ouvrages qui sont vendus à des dizaines de millions d'exemplaires, Code da Vinci et compagnie, on n'est pas du tout dans le même type de littérature. Hein. Le type d'essai, c'est le type d'écriture, de livre que publie Erich von Däniken, on appelle ça dans le langage littéraires, on appelle ça des essais. Et un type d'essai de ce type-là, qui est très, très niché, qui s'adresse à un public très particulier, vendu à 4 millions d'exemplaires, traduit en plus de 20 langues, c'est quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et Eric Van Daneken, hein, il va réussir, il y a un autre élément qui va jouer en sa faveur. Donc l'ouvrage sort en 1968, je vais revenir un peu sur les prémices de cet ouvrage-là, mais donc à partir du moment où il sort en librairie, il est un énorme succès. Et deux ans plus tard, il y a une compagnie allemande qui vont réaliser un documentaire, et c'est l'extrait, le petit clip audio qu'on a fait entendre en début d'émission. Donc ce documentaire qui va sortir en 1970, présenté dans les cinémas, avec cette trame musicale là, qui est tout à fait le renversant. Et ce documentaire, Van Daneken n'y participe pas vraiment. Hein, il a agi un peu comme conseiller. On reprend son ouvrage. Hein, d'ailleurs, le titre du documentaire, autant en allemand, en anglais ou en français, est éponyme de son ouvrage. Mais Van Daneken ne participe pas directement à la production du documentaire. Mais ce documentaire est un coup de génie qui va bien sûr déteindre sur le succès d'Eric Van Daneken. Et encore une fois, je ne peux qu'insister, les images sont vraiment magnifiques. Elles sont tournées d'une manière à rendre les choses vraisemblables. Le narratif, il est parfait. Écoute, il n'y a à peu près pas grand-chose qu'on peut reprocher à un tel documentaire. Et son impact est tel, hein, qu'il y a non seulement il y a toute une génération qui vont découvrir un peu cette hypothèse des anciens astronautes, mais en même temps, elle fait rêver. Hein, c'est une hypothèse qui est sexy. Et ces images, ce documentaire en particulier, peut-être plus le documentaire pour une jeune génération, parce que l'ouvrage, évidemment que j'ai lu, mais...
Ouais.
L'ouvrage est moins on n'a pas les images du documentaire, tu comprends-tu? C'est moins palpitant. Mais dans le documentaire, de la façon dont il est tourné, ça nous fait rêver. Et il y a toute une génération, et moi le premier, hein, qui me suis intéressé aux grandes civilisations disparues de l'histoire, hein, que ce soit les civilisations du Mésoamérique, hein, bon, les Mayas, les Aztèques, l'Amérique du Sud, les Incas, les peuples également pré-Inca comme les peuples de Nazca, ou encore, bien sûr, l'Égypte avec ses gigantesques pyramides, les statues de l'île de Pâques. Donc, toutes ces grandes structures, ces grandes constructions de l'histoire, elles ont été présentées, elles ont été récupérées par Eric Van Daneken et par les gens, ces émules, hein, sans être péjoratif, là, les émules de Van Daneken qui ont récupéré ça et qui nous les ont présentées comme étant des preuves que dans l'Antiquité, dans l'histoire, des temps très lointains, des extraterrestres seraient venus et ils auraient pris contact avec les grandes civilisations et ils seraient un peu derrière l'essor de ces grandes civilisations, tant sur le plan mathématique que sur le plan de l'architecture. Mais bon, maintenant qu'on a lancé toutes les fleurs à Van Daneken, il faut quand même préciser que ses ouvrages, parce qu'il n'y en a pas écrit qu'un seul, hein, il y a Chariot of the God, hein, le présence extraterrestre, et l'ouvrage sans aucun doute le plus connu, bien, il écrit à peu près une trentaine de livres sur, toujours en récupérant cette même hypothèse des anciens astronautes. Tous ses ouvrages vont dans le même sens, c'est le même tour, le même discours. Alors, il a écrit également un ou deux livres sur les trésors, mais vraiment, sa marque de commerce, disons ça comme ça, c'est la théorie des anciens astronautes. Une fois que cet ouvrage-là a été bien connu du public, c'est sûr que, faut pas se le cacher, quand l'ouvrage est paru en librairie et quand le documentaire est sorti et qu'il a fait énormément d'adeptes, il y a eu une levée de boucliers de la part des historiens et des archéologues, qui ont bien sûr dénoncé cet ouvrage-là comme étant une forme d'obscurantisme et d'exploitation de l'ignorance des gens par rapport à l'histoire. Et là, on a vu également dans la même foulée, on a vu apparaître toute une série d'ouvrages. Je pense par exemple à Crash Go the Chariots, qui est paru en 72 de Clifford Wilson, ou en français, hein, L'archéologie devant l'imposture de Jean-Pierre Adam, qu'on a déjà reçu il y a quelques années à l'émission des Radio X-Files, qui est un archéologue qui est responsable un peu des antiquités égyptiennes au musée du Louvre. Ensuite, le même Jean-Pierre Adam avait publié Le passé recomposant en 1988. Je pense, et plus récemment, deux ouvrages incontournables pour ceux qui s'intéressent un peu non seulement à la théorie des anciens astronautes, qui est en fait beaucoup plus une hypothèse qu'une théorie. Là, on s'accroche dans les fleurs du tapis. Là. L'idée des anciens astronautes est plus une hypothèse qu'une théorie. Ça n'a pas tout à fait la même définition.
Ça ne se confirme pas entièrement. Là.
Non, donc l'hypothèse, c'est je songe, pas je démontre, mais je songe. Donc l'hypothèse des anciens astronautes, si on s'y intéresse, puis on s'y intéresse également sur le plan social, hein, comment cette hypothèse-là, qui est un peu fantaisiste quand même, a-t-elle pu s'enraciner d'une manière aussi forte dans la culture populaire? Je conseille deux ouvrages de Victor Stokowski, professeur en France, notamment en sociologie. Il a écrit Des hommes, des extraterrestres et des dieux. Et ensuite, ça c'était en 1998, et en 2023, il a publié À la recherche d'une autre genèse, dans lequel, encore une fois, il revient sur la théorie des anciens astronautes. Et ceux qui veulent un peu faire le partage de la théorie des anciens astronautes versus la vision historique ou archéologique, je ne peux que conseiller l'extraordinaire La science face au dossier mystérieux de l'Égypte ancienne de Franck Monnier, qui est paru l'an dernier. Donc, tout ça pour te dire qu'à partir du moment où cette hypothèse-là va prendre racine un peu dans la culture populaire occidentale, il y a des archéologues et des historiens qui sont scandalisés. Alors, bon, évidemment, on se met à écrire en disant c'est de la foutaise, tout ça. Mais il faut quand même le dire, les ouvrages à caractère scientifique sont beaucoup moins sexy à lire que des ouvrages à la von Daniken. Et regarder un documentaire fait par des archéologues ou des historiens sur les pyramides d'Égypte, ben c'est beaucoup moins sexy qu'écouter un épisode de Nos ancêtres, les extraterrestres. Tu vois un peu la problématique qu'on a ici.
Ouais, ouais,
donc, et en même temps, on s'adresse, et c'est un peu ce que dénoncent les gens qui ont critiqué von Daniken, c'est qu'on s'adresse à un public qui est généralement ignorant de l'histoire. Donc, c'est facile de raconter n'importe quoi. Comme les gens ne sont pas des spécialistes de l'histoire, ils vont adhérer à ces hypothèses-là parce qu'il y a un peu dans la psychologie humaine ce qu'on pourrait appeler le biais de conformement, le biais de confirmation. Hein. Moi, je veux croire que les extraterrestres sont intervenus dans l'histoire, qu'ils ont aidé les Égyptiens ou les Mayas ou les Aztèques, et soudainement, on me présente des images, des hypothèses qui vont dans le sens, dans ce sens-là, et j'y adhère plus aisément. Bon, et en même temps, ça fait rêver, hein. Il y a quelque chose de très extraordinaire là-dedans. Et puis, bon, ben, von Daniken, il faut quand même le dire, c'est quand même, je vais revenir un peu plus tard dans l'émission, parce qu'on fait une émission spéciale sur von Daniken, je vais revenir sur les courants qui ont amené von Daniken à publier ou écrire Présence extraterrestre, mais il faut savoir que sur le plan biographique, von Daniken, après son énorme succès dans les années 60, 70, hein, où il s'est imposé. D'ailleurs, il a joué un petit rôle ici au Québec parce que en 1969, il y a eu en 67, on a eu l'exposition internationale à Montréal et après l'exposition 67, la ville de Montréal se posait la question, qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec les pavillons? Hein, les pavillons qui avaient été, ils ont tous été donnés, il faut quand même le dire, toutes les nations qui ont participé à l'exposition universelle de 67 à Montréal ont fait don de leurs pavillons et ils ont fait don des collections qui étaient principalement des doublons ou à tout le moins des reproductions qu'on retrouvait dans les pavillons. Et ils en ont fait don à la ville de Montréal. Mais bon, la ville de Montréal s'est dit, OK, il faudrait quand même, certains pavillons nécessitaient d'être reconvertis. Et ça a été le cas, par exemple, d'un pavillon pour les gens plus, les vieux là, comme moi, là, qui se rappellent de l'Expo 67 ou qui se rappellent des pavillons de l'Expo 67. Il y avait comme trois pavillons qui étaient très curieux. Hein, même quand on regarde des photos de l'Expo 67, on les voit, ils sont réunis, les trois pavillons ensemble. Ils ont l'air un peu des dodécaèdres ou des tétraèdres, là, c'est une forme un peu bizarre. Ouais. Et ces trois pavillons-là, c'était les pavillons qui étaient consacrés à l'homme et la mer. Hein. Donc, on parlait beaucoup d'exploration sous-marine. Il y avait notamment des exhibitions du commandant Cousteau. Et puis, après la fin de l'Expo 67, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ces pavillons-là? Donc, l'un d'entre eux a été converti. Il est devenu le pavillon Un monde insolite, Strange World en anglais. Et ce pavillon de l'insolite, quand il a fallu le réadapter, on s'est dit, on va le consacrer aux ovnis, aux extraterrestres et à toutes sortes d'hypothèses. Donc, il y avait des espèces de reproductions en papier mâché qui racontaient quelques histoires d'ovnis survenus au Québec, des trucs comme ça. Mais il y avait toute une aile de ce pavillon-là qui était consacrée à la théorie des anciens astronautes. Et on avait fait venir Éric Van Daneken à Montréal. Et c'est lui qui avait conseillé des architectes pour les éléments thématiques qui seraient présentés en vitrine pour le public. Donc, il a quand même collaboré, Van Daneken, à la création de ce fameux pavillon Un monde insolite, le pavillon reconverti à Terre des Hommes, qui a été ouvert et accessible au public jusqu'en 1982. Donc, la reconversion du pavillon 1969 et la fermeture du pavillon 1982. Et la plupart des objets qui avaient été conservés ont été vendus aux enchères en 1984, une vente aux enchères qui avait été organisée par la Ville de Montréal. Mais bon, je m'égare un peu.
Mais tu parlais d'Expo 67, c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu voir. Ça avait l'air exceptionnel à l'époque. J'ai joué une parenthèse, mais...
Ouais, mais moi, pour te dire, Nick, je vais être très honnête avec toi, j'ai pas de souvenir de l'Expo 67. Bon. J'y suis allé.
Oui.
Mes grands-parents m'ont amené à l'Expo 67, mais je ne garde pas vraiment de souvenir de l'Expo 67. En fait, j'ai probablement que les souvenirs que j'ai, c'est davantage des souvenirs recomposés à partir d'images et de photos. Mais te dire honnêtement, là, ah oui, je me rappelle avoir été à tel ou tel pavillon à l'époque de l'Expo 67. Je garde pas vraiment de souvenirs de ça. J'étais trop petit. Mais je me rappelle, par exemple, des années plus tard, quand certains des pavillons étaient reconvertis, dont le pavillon Le Monde Insolite, dans lequel, d'ailleurs, j'ai pris une photographie d'un extraterrestre qui a fait le tour du monde et qui a fait fantasmer les amateurs de soucoupes volantes à travers le monde. Mais cela étant dit, j'ai visité les pavillons qui avaient été donnés à Montréal. Donc, j'ai pu visiter plusieurs de ces pavillons avec les collections qu'il y avait à l'intérieur, le pavillon de la Roumanie, oui. Des trucs comme ça. Et donc, je me rappelle assez bien, parce que là, ces visites-là se sont faites dans les années 70. À ce moment-là, j'étais adolescent ou jeune adulte. Donc, oui, je me rappelle très bien les pavillons qui avaient été cédés à la Ville de Montréal. Et puis, aujourd'hui, il ne reste à peu près que le pavillon de la France qui a été reconverti en le Casino de Montréal. Donc, c'est l'ancien pavillon de la France okay. qui est le Casino de Montréal.
Qui était rénové, j'imagine, aussi, là.
Ah oui, bien sûr, mais pour ceux qui ont connu l'Expo 67, quand on voit le casino, c'est le pavillon, okay. C'est l'ancien pavillon de la France. Tout ça pour dire que Van Daneken était donc venu à Montréal. Il avait donné d'ailleurs une conférence sur le sujet. C'est pas un personnage facile. Moi, je lui ai parlé à quelques reprises au téléphone. Je te dirais, à la fin, aux alentours de 1998-99, j'avais songé à le faire venir à Montréal et à Québec pour une série de conférences. Puis ça s'était pas produit, ça s'était pas fait parce que, bon, monsieur Van Daneken était très tatillon. Hein, tu sais, il fallait absolument qu'il vole sur un vol de Swissair parce que c'était le seul vol qui permettait aux gens de fumer sur le vol. À l'époque, ça commençait à se répandre, là, les non-fumeurs sur les vols, ouais. Sur les vols internationaux. Et Van Daneken, lui, voulait absolument être sur Swissair parce que il était fumeur. Puis, ouais. Avant même qu'on soit arrivé à une entente, ça devenait très problématique. Mais bref, tout ça, ça ne diminue pas le personnage et son impact sur la culture populaire. Donc, comme je l'ai mentionné, il a participé un peu, il a été un peu l'architecte de ce pavillon Un monde insolite à Terre des Hommes. Et puis, il a eu un éclipse hein, dans les années 80. Je te dirais que cette hypothèse des anciens astronautes, à force de marteler le message qu'il n'y avait strictement rien là-dedans, que c'était de la foutaise, finalement, les historiens et les archéologues ont quand même réussi à marquer un point parce que l'hypothèse a été un peu éclipsée. Hein, ça devenait... ce qui était devenu un mouvement là, très soutenu de cette hypothèse des anciens astronautes dans les années 70 et 80, je te dirais, au milieu des années 80, il y a eu l'éclipse. Hein, donc, Van Daneken et cette hypothèse-là est devenue très marginale. marginalisés et ils ont été un peu écartés. Et puis, il faut attendre finalement 2009 pour la première saison de Nos ancêtres, les extraterrestres, qui sont quand même rendus à 21 saisons, là, parce qu'il y a des années où ils ont fait deux saisons dans la même année. Ils sont rendus à 21 saisons. C'est quand même incroyable.
Wow.
21 saisons de Nos ancêtres, les extraterrestres, qui avait comme une aventure qui a commencé en 2009. Moi, évidemment, comme j'ai une formation en histoire, je ne te cacherai pas que je m'inscris en faux contre ça. Mais néanmoins, c'est vrai que c'est une série qui peut être très divertissante. Et évidemment, à partir du moment où on remet au calendrier l'hypothèse des anciens astronautes, bien évidemment, inutile de dire que Von Daniken devient un incontournable. Et on peut le voir là, régulièrement dans cette fameuse série. Parce que jusqu'à son décès survenu, comme je l'ai mentionné, là, le 10 janvier dernier, donc le week-end dernier, Von Daniken était un homme qui était relativement en forme. Jusque dans les derniers mois, là, il était relativement en forme. Donc, on le voyait régulièrement dans l'émission. Puis, c'est un peu en même temps un clin d'œil ou à celui que l'on considère un peu comme le père de la théorie des anciens astronautes. Et il a également ses successeurs. Aujourd'hui, là, quand on regarde, il y a ceux qui défendent cette hypothèse des anciens astronautes, dont Giorgio Tsoukalos, qui est un peu l'animateur principal de Nos ancêtres, les extraterrestres, qui est un peu son dauphin. Mais d'autres personnes ont surfé sur cette hypothèse. Je pense notamment à Graham Hancock, qui est devenu très populaire par ses livres. Puis également, on peut voir sur Netflix, je crois, deux saisons d'une série qui s'intitule « À l'aube de l'humanité » ou des trucs comme ça. Dans le cas de Graham Hancock, lui, on va le voir là, après la pause, là, mais Graham Hancock, je dirais qu'il s'inscrit davantage dans les précurseurs qui ont précédé Eric Von Daniken. C'est-à-dire que sous la plume de Graham Hancock, les extraterrestres sont un peu éclipsés. Graham Hancock dit non, oui, ces grandes civilisations, l'Égypte antique, on reprend le même discours, on s'entend bien, on prend le même discours. Les anciens Égyptiens, les Mayas, les Incas, ils ont tous bénéficié d'un savoir qui provenait d'une super civilisation. Mais sous la plume de Graham Hancock, même s'il reprend abondamment les théories de Von Daniken, il ne fait que changer finalement les émissaires. Ceux qui viennent livrer le message, ce ne sont plus des extraterrestres, mais c'est une super civilisation qui aurait vécu avant l'ère glaciaire. L'ère glaciaire, faut-il le rappeler, elle remonte à 10 000 ans, là, donc oui. C'était avant l'ère glaciaire. Donc, Graham Hancock dit avant l'ère glaciaire, il y a eu une super civilisation dont à peu près toutes les traces ont disparu. Et cette super civilisation, ils ont ensemencé à travers le monde la connaissance et de la culture. Et c'est cette culture et ces connaissances qu'on retrouve dans les grands monuments. Donc, mais on voit ce n'est en fait qu'un deuxième tour de piste d'une hypothèse qui était l'hypothèse des anciens astronautes. Donc, grosso modo, c'est un peu, je te dirais, le bagage, la biographie de Eric Von Daniken, c'est celle-là. Mais au-delà de sa biographie, il y a des éléments beaucoup plus intéressants, en tout cas, à mon avis. Et ce qui est intéressant, c'est les origines, la genèse de cette hypothèse-là. Pourquoi? En fait, je te dirais que je fais un peu mienne les affirmations ou les prétentions de Victor Stokowski, qui lui a écrit, là, comme je l'ai mentionné, là, Homme extraterrestre et des dieux. Il analyse un peu le message, pourquoi ça s'est produit, pourquoi on y a cru, pourquoi on continue d'y croire, pourquoi les gens ont été charmés par ce type d'hypothèse, quelle est la genèse de ce discours-là. Et ça, si tu le veux, on va passer en revue ces éléments-là après la pause.
Avec
et
plaisir.
On va se faire à nous aussi un deuxième tour de piste.
Avec plaisir. Donc, bougez pas, vous êtes dans les Radio X-Files sur les ondes de choix 98.1 Radio X.
Radio X-Files. Execute program. Avec Christian Page.
Radio X. La trame sonore de ta fin de semaine. C'est légende du rock.
On Radio X.
Avec Pee-wee. C'est Légende du rock.
Samedi et dimanche, 9h.
Radio X.
Présenté par Multiconfort FP. En janvier, épargnez 15 % sur l'installation de votre nouvelle thermopompe et obtenez 6 mois sans paiement ni intérêt sur certains produits. Multiconfort FP à Québec et Victoriaville.
T'es dans la construction? Prends action dès maintenant pour obtenir ta licence RMQ. Depuis plus de 15 ans, le groupe GSC accompagne les entrepreneurs en construction partout au Québec. Formation intensive et encadrée pour t'aider à réussir tes examens RMQ avec confiance et efficacité. En classe, en ligne ou hybride, on s'adapte à ton horaire et à ta réalité d'entrepreneur. Avec nos horaires flexibles, concilie études, travail et vie de famille sans stress. Visitez groupeGSC.com. Groupe GSC, formé pour bâtir.
En janvier, chez Brin Smoke Meat, on paye les taxes. Obtenez 15 % de rabais du dimanche au mercredi sur l'ensemble de votre facture. Réservez au 581-742-3844.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeux de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance. Ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Tu cherches un voyage de chasse ou de pêche? Ne manque pas le plus grand rassemblement de pourvoirie dans l'Est du Québec. Conférenciers et boutiques sur place. Du 15 au 18 janvier au Centre des congrès de Lévis. Pourvoirie.net, c'est là que ça se passe.
C'est la vente 88 chez Maxi. Beurre Lactantia à 4,88. Le sac de patates d'Ilive à 1,88. Mais les pilons de poulet, eux, sont à 1,99 la livre et 4,39 du kilo. Bon, le poulet fait à sa tête, mais à ce prix-là, on le pardonne. Plus de détails en circulaire et chez Maxi.
Parkinson, Capitale Nationale Chaudière-Appalaches remercie M. Charles Saillant, directeur général du groupe Saillant, d'avoir accepté la présidence d'honneur de la deuxième édition du tournoi de golf bénéfice qui aura lieu le 13 juin prochain au club de golf Lac Saint-Joseph. Merci également à nos nombreux partenaires de l'événement, dont Protect-toi et Isolation écologique, Dentiste de la Cité, Chocolat Cotard et Jean-François Bertrand, avocat. Pour faire un don en soutien aux personnes touchées par le Parkinson, visitez le pcnca.ca. Une collaboration radio.
Lorsque vous êtes malade et que vous avez des questions sur votre état de santé, plusieurs choix s'offrent à vous. Appelez au 811 ou consultez votre pharmacien pour savoir comment vous soigner à la maison. Si le problème persiste et que vous avez un médecin de famille, contactez votre clinique pour obtenir un rendez-vous. Si vous n'avez pas de médecin, utilisez le guichet d'accès à la première ligne pour être dirigé vers le bon professionnel. Pour plus d'efficacité, assurez-vous de recevoir le bon service par le bon professionnel au bon moment. Il existe d'autres options que l'urgence. Informez-vous au québec.ca/accès-santé. Un message du gouvernement du Québec.
This is not a test. Radio X Files.
Avec Christian Page.
Radio X.
On est de retour dans les Radio X Files en ce vendredi soir. Ce soir, on parle d'un spécial, une émission spéciale en fait, suite au décès de Erich Van Daniken. J'espère, Christian Page, que je l'ai dit comme il faut. Là.
C'est Erich
Van Daniken.
Erich Van Daniken, oui. Et juste avant la pause, c'est ça, on mentionnait, bon, on a fait un peu le tour, une biographie rapide
oui.
d'Erich Van Daniken, mais maintenant son message, hein, parce que c'est un peu quand les sociologues ont été confrontés à cette hypothèse des anciens astronautes, la première chose qu'on s'est dit, mais comment est-ce que les gens peuvent adhérer à des sottises pareilles? Et même s'il y a eu une levée de bouclier, il est quand même vrai que cette hypothèse des anciens astronautes, elle continue d'être très populaire auprès d'un certain auditoire et même lectorat, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui sont publiés sur le même sujet. Et les gens y adhèrent. Hein. Pourquoi? Parce que ça fait rêver, parce que c'est sexy, même si, malheureusement, on exploite beaucoup l'ignorance des gens par rapport à l'histoire. Mais cela étant dit, d'où vient cette hypothèse? Hein? Erich Van Daniken ne s'est pas levé un matin comme ça en disant « Oh, mais moi, je vais écrire un truc, puis à mon avis, les extraterrestres ont contribué à l'érection des pyramides ou des grandes civilisations d'Amérique centrale. » En fait, ce message-là était déjà dans l'air. Hein? C'est quelque chose qui avait déjà été initié, puis qui était même pas très nouveau. Hein? Je dirais que toute cette mouvance d'une super civilisation qui a contribué à l'essor d'anciens peuples, que ce soit les peuples de la, du Mésoamérique ou de l'Égypte ou autre, cette idée-là avait déjà été, en fait, elle est apparue de manière plus soutenue. Encore une fois, on pourrait reculer là, très loin, de manière très, très lointaine, mais je dirais de manière plus soutenue, on a vu se développer une espèce de mouvement ésotérique et mystique autour de cette hypothèse dès la fin du 19e siècle. Hein. Et principalement, là, je dirais, il y a deux personnes qui ont beaout contribué à ça. Il y a une certaine Madame Blavatsky, qui est une aventurière. On pourrait faire une émission sur Madame Blavatsky. Là, c'est une aventurière russe. Elle prétend avoir été au Tibet, avoir rencontré des maîtres initiateurs qui lui auraient livré des messages, une connaissance, un savoir. Et à partir de ce savoir, elle va créer une espèce de mouvement philosophique qui appelle à une réflexion sur les origines de l'humanité. Et ce mouvement théosophique qu'elle va créer, ce mouvement philosophique qui s'appelle la théosophie, qu'elle va lancer en 1875, ben, reprend un peu cette idée-là, parce que dans ses contacts qu'elle a eus avec ces espèces de guides spirituels, ils lui ont annoncé que l'humanité, en fait, évoluait ou avait évolué à travers l'histoire grâce à l'intervention de super civilisations. Donc, évidemment, okay. On n'est pas ici dans l'univers de la technologie, hein. Ça n'existe pas, les voyages dans l'espace, hein. Les extraterrestres n'existent pas, là. C'est de l'image. Ils sont pas là. Ils font pas partie du tableau. Mais les grands maîtres, les guides de Madame Blavatsky lui ont dit, voilà, les civilisations comme l'Égypte antique, les Mayas, les Incas, tout le reste, c'est civilisations. Ont évolué, ils ont produit des œuvres architecturales magnifiques, ils avaient un grand savoir dans le domaine de l'architecture, dans le domaine des mathématiques, et même dans certains cas dans la médecine, hein, parce qu'on a vu des trépanations de crânes, par exemple, dans certaines anciennes civilisations. Toutes ces connaissances-là leur auraient été livrées grâce à l'intervention de super-civilisations, et l'humanité évoluerait par bond grâce à l'avènement de ces super-civilisations. Donc là, Mme Blavatsky les noms. Il y a eu les Hyperboréens, il y a eu les Lémuriens, il y a eu les Atlantes, qu'on connaît plus, les Atlantes pour l'Atlantide. Petite écorchure ici dans l'histoire, elle annonce dans cette philosophie que la prochaine race qui va permettre à l'homme d'évoluer, c'est la race aryenne. Donc, la race aryenne, t'as bien compris, oui, c'est les mêmes aryens là, d'Adolf oui. Hitler, ouais, les aryens. Hein. Donc, quand les gens se posent, là, d'où vient cette idée-là, hein, sous Adolf Hitler, la race aryenne, ben la race aryenne, c'est la race annoncée par Madame Blavatsky. Hein. Et donc, parce que ce mouvement, cette philosophie qui s'appelle la théosophie de Madame Blavatsky, elle est fondée aux États-Unis, elle va vite gagner l'Europe, et il va y avoir une espèce de réception en Europe très particulière du côté de l'Allemagne. Hein. Et surtout après la Première Guerre mondiale, les Allemands ont l'impression d'avoir été, eux qui ont été un grand peuple, hein, faut-il le rappeler, les ouais. Allemands, le peuple allemand, a remplacé Rome, hein, au Moyen Âge, là, la nouvelle Rome, c'était les Allemands, hein, la Germanie, hein, l'ancien empire germanique, et c'était le centre du monde. L'empire, c'était le centre du monde. Et après la première guerre mondiale, les Allemands, hein, il y a toute une génération d'Allemands qui rêvaient du retour de cette grande Allemagne, de cette grande Germanie, et plusieurs d'entre eux, donc, de ces jeunes Allemands, qui se sentaient un peu lésés, ont rejoint des groupes philosophiques, ésotériques, et dans ces groupes ésotériques, ben, on annonçait, on s'alimentait beaucoup aux théories de Madame Blavatsky, et même si dans ses ouvrages ou dans sa théosophie, Madame Blavatsky ne dit pas qui sera les Aryens, elle dit que c'est une super civilisation qui va venir, hein, qui va apparaître. Du même type que les Atlantes, les Lémuriens, les Hyperboréens et tout le reste. Elle ne donne pas un détail très précis de qui sont les Aryens. Mmh. Mais tu comprends, dans cette Allemagne un peu écorchée, des auteurs vont vite dire la prochaine race, la race aryenne annoncée par Madame Blavatsky sera une race germanique. Hein? Madame Blavatsky dit pas que c'est une race germanique, mais il y a des auteurs oui. ésotériques qui, eux, font vite le pas. Et c'est ainsi que va apparaître cette idée-là de cette race supérieure qui sera la race aryenne et qui va, en fait, un peu paver la voie à cette Germanie nazie d'Adolf Hitler. Donc, c'est un petit... J'ai fait un petit détour ici dans l'histoire là, pour expliquer d'où ça vient. Mais donc, Madame Blavatsky, c'était son idée, dans la théosophie, des super civilisations de l'histoire avaient existé, étaient disparues, et ces civilisations avaient apporté leur savoir qui avait permis l'évolution de l'humanité. Donc, on a déjà une base là, qui est placée ici. Et puis, à peu près à la même époque, on a également un politicien américain qui s'appelle Ignatius Donnelly, qui va publier en 1882 un ouvrage qui s'intitule « Atlantide, le monde antédiluvien ». Et dans cet ouvrage-là, ben, il reprend le mythe de l'Atlantide. Hein. Lui, il n'y a pas deux super races, il n'y en a qu'une seule, et c'est les Atlantes, hein, cette fameuse Atlantide qui avait été énoncée par dans des ouvrages grecs, dans, qui avait été sous la plume de... le nom va me venir, là, j'ai un blanc, là, mais bref, on va... cette Atlantide, c'est Platon, voilà. Donc Platon, dans des écrits, va dire, ben voilà, il y a eu cette super civilisation qui est disparue, et qui est tombée un peu dans l'oubli, hein, après l'écrit de Platon, hein, c'était il y avait des dialogues. Hein. Platon avait écrit des différents textes qu'on appelait les dialogues, et c'est dans les dialogues qu'il raconte l'histoire de l'Atlantide, qui est une allégorie. Hein. Il dit pas... Il raconte cette histoire-là pour montrer un peu le, comment je pourrais dire, l'arrogance de l'humanité envers les dieux. Là. C'est un peu cette idée-là qu'il véhicule dans l'Atlantide. Et donc, l'histoire tombe un peu dans les oubliettes. Et puis, éventuellement, bon, après Madame Blavatsky, on voit que Donnelly s'inscrit juste après. Hein. Blavatsky lance la théosophie en 1875. L'ouvrage de Donnelly apparaît en 1882, donc on est 7 ans plus tard. Lui, il fait table rase des super civilisations proposées par Madame Blavatsky. Il n'en garde qu'une seule, c'est les Atlantes, et ce sont ces mêmes Atlantes qui, après la destruction de leur monde, sont allés un peu partout à travers la planète pour donner des informations d'ordre mathématique ou architectural pardon, à des grandes civilisations qui ont permis la construction de grands monuments comme les pyramides, les statues de l'île de Pâques et tout le reste. Et puis tout ça va circuler jusque dans les années 50. Et dans les années 50, là, on voit apparaître, hein, c'est, faut-il le rappeler, 1957, c'est l'envoi du premier satellite artificiel dans l'espace, Sputnik 1. Et là, à partir de ce moment-là, on commence déjà à parler que il y a le bras de fer qui se joue entre l'Union soviétique, la Russie d'aujourd'hui, et les États-Unis. Et l'idée, c'est, on va envoyer des hommes sur la Lune. Donc, on commence à percevoir l'idée de voyageurs de l'espace. Donc, nos anciennes super civilisations du passé, on a besoin de les remettre à jour, et soudainement, ces vieilles civilisations perdues et oubliées deviennent soudainement des extraterrestres. Et là, on va voir tout un groupe d'auteurs qui vont commencer à écrire sur ces histoires-là en disant « Finalement, c'est pas les Atlantes qui ont permis la construction des pyramides d'Égypte, c'est les extraterrestres. » Donc, on voit là, la base est mise et on voit des auteurs. Hein, l'auteur le plus prolifique de cette époque est probablement un qui a eu le plus d'emprise. C'est un auteur français qui s'appelle Robert Charroux. Il va publier notamment deux ouvrages qui vont être très marquants à la fin des années 50. Il y a « Histoire inconnue des hommes depuis 100 000 ans » et « Le livre des secrets trahis ». Il y a également un ouvrage qui va faire date dans l'histoire de la littérature sur les phénomènes étranges et mystérieux, un ouvrage de Jacques Bergier et de Louis Powell qui s'appelle « Le matin des magiciens », dans lequel on reprend un peu cette idée-là de visite extraterrestre. Et puis, dans la foulée, ben, il y a d'autres auteurs. Hein. Jean Sandy va écrire « Ces dieux qui firent le ciel et la terre » en 69. Paul Thomas, de son vrai nom, Paul Misraki, va publier en 62 un ouvrage qui s'appelle « Les extraterrestres » dans lequel il fait ce lien-là entre les grandes constructions de l'histoire et les extraterrestres. Donc, le terreau, il est là. Hein? Mais pourquoi ça prend moins bien? Ben, c'est un peu, je te dirais que ça doit ressembler un peu à Elvis Presley. Hein?
Okay.
Là, les gens diront, on voit que le Christian il ramène toujours à Elvis. Oui. Mais tu comprends, Elvis, c'est un peu un truc qui arrive, qui est un... Si Elvis était arrivé 2 ans ou 3 ans plus tôt, ou s'il était arrivé 2 ans ou 3 ans plus tard, ça n'aurait peut-être pas fonctionné aussi bien. Tu comprends?
C'est une question de timing.
Oui, c'est ça. C'est une question de timing, comme tu dis. Hein. Il y a un momentum où les choses, les astres s'alignent pour que ça fonctionne. Et à ce moment-là, on est exactement dans la même configuration lorsqu'arrive Eric von Daniken. On a déjà ces auteurs qui ont repris à leur compte l'idée que les grandes civilisations de l'histoire ont été aidées non pas par des super civilisations disparues, comme l'avait annoncé Mme Blavatsky ou avait annoncé Ignatius Donnelly avec les Atlantes, mais il dit c'était des extraterrestres. Mais ça a de la difficulté à s'imposer comme idée. Hein. C'est vraiment nouveau comme idée. Et là, ben, en même temps, il y a des historiens, des archéologues qui disent « Mais foutaise, il n'y a rien de vrai là-dedans. » Mais peu à peu, les années 60, faut-il le rappeler, c'est une année de grande mutation dans nos sociétés. Hein. La jeune société, on a toujours un peu cette image de Elvis Presley ou James Dean ou les Beatles, l'invasion de la musique britannique. Il y a une espèce de moment où les années 60 ont été un véritable chaos ou une coupure entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Tout est remis un peu en question. On ne croit plus les politiciens, on ne croit plus aux politiques, on ne croit plus nos parents. Tu sais, il y a une espèce de mouvance qui se fait dans ce sens-là. Et là, quand arrive une théorie, et lorsque von Daniken arrive avec son idée, il ne fait finalement que reprendre à son compte des idées qui circulent depuis quelques années. Et principalement, hein, quand on regarde von Daniken, dans son livre « Présence extraterrestres », c'est quasi un copie-coller des souvenirs. Textes qui avaient été publiés par Robert Charroux. Mais Robert Charroux, il y avait une prise contre lui parce que Robert Charroux, qui est un érudit, écrivait d'une manière très hermétique. Hein. Quand on lit les sites, demain matin, tu décides, Nick, de lire un ouvrage de Robert Charroux, assis-toi. Okay, hein, parce que c'est un ouvrage qui s'adresse à une espèce d'élite intellectuelle. Non, c'est très niché, c'est un ouvrage. Lui-même était un érudit. Il écrivait de manière très hermétique. Donc, c'est pas à la portée de tout le monde de comprendre des Robert Charroux. Mais von Daniken récupère ça. Et il est magnifique. Von Daniken a une façon de reprendre ça, de l'emballer différemment. Il dit exactement la même chose, mais il le dit dans des mots simples. Il a une façon de raconter l'histoire qui nous fait voyager, qui nous fait rêver. Et von Daniken arrive à ce moment-là. On est en 1960. C'est justement la grande révolution en France. Hein. Les étudiants jettent des pavés aux policiers, aux gendarmes. C'est la révolution de mai 68. C'est une grande époque. Et à ce moment-là, von Daniken arrive avec une idée qui met le feu aux poudres. L'idée où on redessine finalement l'histoire et on la redessine avec des extraterrestres. Ça fait rêver. Ça s'inscrit également dans l'ère du temps. On est là, on est à la veille des voyages dans l'espace, d'envoyer des hommes sur la Lune en 68. Faut-il le rappeler, c'est l'envoi de Apollo 8 autour de la Lune. Pour la première fois, des humains vont tourner autour de la Lune. On est en décembre 1968. Tout s'inscrit là. Les astres sont alignés pour qu'on croit aux extraterrestres. Les extraterrestres, là, ils atterrissent. S'ils atterrissent pas dans notre cour arrière, ils atterrissent dans notre imaginaire. Et ça, von Daniken arrive au bon moment pour exploiter cette idée-là. Donc, en s'habillant avec des écrits qui avaient déjà été présenté, mais qui avait plus ou moins bien réussi parce que, ou bien mal présenté, écrit dans des styles trop hermétiques, ou pas exactement dans le bon momentum, von Daniken lui arrive et produit Présence des extraterrestres.
Un peu comme... J'allais dire un peu comme Elvis Presley qui a revisité... Tu sais, il s'est approprié un peu le rhythm and blues et le blues.
Tout à fait.
Puis il a
tout
juste...
à fait, c'est pour ça...
Oui.
Voilà, c'est pour ça que je la comparaison avec Elvis Presley, elle est excellente parce que Elvis, on l'a surnommé le roi du rock and roll.
Oui,
mais... Von Daniken serait le roi des anciens astronautes, mais il n'est pas l'inventeur.
Non.
Elvis n'a pas inventé le rock and roll comme von Daniken n'a pas inventé la théorie des anciens astronautes, mais c'est lui qui l'a popularisé.
Exact. Hein?
Et sans lui, elle n'aurait pas eu cet essor-là comme Elvis a rendu populaire le rock and roll. C'est-à-dire, quand les gens veulent critiquer, combien de fois on entend des critique aujourd'hui, hein, ça fait toujours bien de critiquer tout le monde pour dire « Ah oui, oui, mais Elvis, finalement, il ne fait que voler la musique des Noirs. » Non, il a permis à la musique des Noirs de rentrer dans les maisons blanches. Hein, cette musique-là, elle était dans un ghetto. Les gens n'auraient jamais, les Blancs d'Amérique n'auraient jamais écouté cette musique-là si le chanteur était noir. Donc, des gens là, comme Little Richard et d'autres étaient un peu limités dans une espèce de ghetto. Il y avait cette résistance de la communauté blanche à écouter cette musique qui était extraordinaire. extraordinaire, mm-hmm. parce que les gens qui l'exprimaient n'étaient pas, entre guillemets, de la bonne couleur pour eux. Hein? Et là, quand je dis ça, je ne veux pas être raciste. Là. On se remet dans la philosophie des années 50. Ouais. C'était l'époque des années 50. Et là, Elvis arrive. D'ailleurs, le grand souhait, hein, quand Elvis apparaît sur la scène, il apparaît, c'est un peu là, un souhait au moment où il va enregistrer son premier disque pour sa mère, en fait, un cadeau pour sa mère. Le directeur de la compagnie d'enregistrement, Sam Phillips, dit à sa secrétaire, elle dit, moi, j'aimerais tellement ça, trouver un chanteur blanc, mais qui chante comme un noir. Hein? C'est, je ferais fortune avec ça. Et ça donne qu'il y a ce jeune en fait, il conduit des camions pour une compagnie électrique.
Ouais, ouais.
Il s'arrête à la Sun Record, puis il dit à la secrétaire, dis-moi, je m'en viens enregistrer un disque pour ma mère, ça coûtait 2$. Et là, il va enregistrer, et la secrétaire dit, wow, ce type-là, c'est exactement ce que Sam Phillips souhaitait. C'est le chanteur blanc qui chante comme un noir. T'sais. Donc, Van Daneken, c'est un peu la même chose. Hein? Il arrive, il invente rien, mais il a une façon de présenter les choses qui vraiment vont soulever là, l'intérêt et soudainement, la théorie des anciens astronautes va se répandre comme une traînée de poudre. C'est une théorie enivrante et sexy, je l'ai dit. Hein?
Ouais.
Bon, l'idée que les extraterrestres sont là puis ils vont aider les Égyptiens, les Incas et tout le reste, c'est fantastique. Il y a quand même un petit côté pernicieux qu'il faut quand même souligner. Cette théorie des anciens astronautes, elle est souvent dénoncée aussi comme une théorie qui est relativement raciste. Et elle est raciste parce que dans les gens qui véhiculent... Puis je dis pas que les gens qui la véhiculent sont racistes, on se comprend bien, là. Mais c'est une théorie, quand on gratte un peu son lus, on constate que c'est un peu raciste, quand même. Parce que cette théorie ne met rarement, sinon jamais en question, que les Grecs ont aménagé l'Acropole, que les Romains ont construit des aqueducs ou des ponts qui, 2000 ans plus tard, ont résisté à tout. Tu comprends? Pourquoi jamais on remet ça en question? Parce que les Grecs, comme les Romains, étaient des civilisations blanches de culture occidentale. Mais quand on commence à se dire, OK, mais des basanés d'Afrique du Nord auraient construit des pyramides. Non, ça, c'est impossible. Des Indiens, des sauvages, en Amérique centrale, auraient construit des tentes dans la jungle. Ça, c'est impossible. Des gens, des impies, hein, quelque part en Amérique du Sud, auraient construit des murailles fantastiques sans mortier. Ça, c'est impossible. Pourtant, ces gens-là avaient le même cerveau que les Grecs puis les Romains. Là, tu comprends? Il y avait le même débrouillardise et tout le reste. Le cerveau, nos ancêtres, là, il y a 30 000 ans, avaient exactement le même cerveau que le nôtre, hein, la même capacité de raisonnement. Donc, ces gens-là. Mais c'est là que cette théorie des anciens astronautes devient quelque part un peu raciste. On remet jamais en question la débrouillardise, le savoir mathématique ou architectural des grandes civilisations de l'Antiquité qui sont de culture blanche occidentale, comme les Grecs ou les Romains. Mais dès qu'on tombe dans des régions, disons, plus exotiques, le nord de l'Afrique, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, les îles de la Polynésie, là, ça devient impossible. Ces gens-là sont, entre guillemets, trop primitifs. Donc, c'est là qu'il y a, je dirais, un petit peu ce ressentiment raciste par rapport à cette théorie des anciens astronautes. Et puis, bon, ben évidemment, Van Daneken va faire des éléments, il y a certains monuments qui vont devenir des éléments phares dans la théorie des anciens astronautes et qui perdurent encore aujourd'hui. Puis on le comprend, là. Je lance pas la pierre. C'est vrai que ce sont des théories qui sont tout à fait enivrantes. Mais malheureusement, entre l'idée du divertissement et le savoir de l'histoire, il y a un monde entre les deux. Ici, on avait une table ronde et on invitait autour de la table ronde des archéologues ou des historiens. Bien, on verrait que les grands mystères qui sont évoqués dans cette théorie des anciens astronautes sont des mystères qui sont surfaits, voire qui sont entièrement inventés. Par exemple, si on regroupait autour d'une table des historiens ou des archéologues pour parler des pyramides d'Égypte, on verrait vite qu'il n'y a pas de mystère à la construction des pyramides. On le sait comment les pyramides ont été construites. Là où il y a des problèmes, c'est dans le détail, mais ça ne change rien sur la construction. On sait que les blocs ont été extraits de l'endroit où les pyramides sont construites, puis on sait qu'on les montait avec des rangs. La question maintenant, quand je dis le détail, c'est les archéologues s'entendent pas tous pour dire est-ce que les rampes tournaient autour de la construction? Est-ce que c'était des rampes droites qui allaient vers la construction? Ou est-ce que c'était des rampes qui étaient construites sur les premières assises de la pyramide? Mais c'est du détail, ça, là. À la base, ils ont coupé des blocs dans le substrat où sont les pyramides, puis on les a grimpés avec des rampes. Ça, il n'y a pas de mystère, là, on le sait. Et on sait également, on a même, il y a quelques années maintenant, un archéologue français, Pierre Tallet, a découvert un document qu'on appelle le journal de Mérère. Et dans le journal de Mérère, donc ce fameux Mérère était un intendant, si je puis dire, à la cour du pharaon Khoufou, au Khéops, si tu préfères, la grande pyramide, le constructeur de le pharaon à qui on doit la grande pyramide du plateau de Gizeh. Et ce fameux Mérère, ben dans son journal, il écrit, comme je l'ai dit, hein, les blocs qui constituent la pyramide, les 90% des blocs qui constituent la pyramide viennent du substrat du plateau de Gizeh. Hein, sont dans le sol, on coupe le sol, puis on monte les blocs. On les fait pas venir de nulle part, ils sont là. Mais c'est vrai que les blocs d'acier de la pyramide, ainsi que les blocs qui sont dans la chambre du roi, ce sont des blocs de granit. Et là, les blocs de granit, eux, on est allé les chercher ailleurs. Mmh. Et dans le journal de Mérère, ben Mérère dit, bon, ben voilà, je suis allé à la carrière d'Assouan, de l'autre côté du Nil, puis j'ai acheté 10 blocs. Puis là, il décrit comment on emporte les blocs, puis etc. Donc, on a ces documents-là. On le sait comment les pyramides ont été construites. Il n'y a pas de mystère, là. Quand les amateurs de la théorie des anciens astronautes véhiculent l'idée qu'il y a un mystère à la construction des pyramides, ben, c'est pas vrai. Il y a des petits détails qu'on ne sait pas, là. Ouais, tout à fait. On ne sait pas si le gars qui coupait la pierre la coupait avec un marteau dans la main gauche ou dans la main droite, mais ça ne change rien. Il y avait quand même un marteau pour couper la pierre. Donc, tu vois, c'est des petits détails. Et on fait un peu la même chose. Hein. Par exemple, on prend les lignes de Nazca au Pérou, hein, qui sont des tracés dans le désert. Et là, ben, sous la plume de Von Daniken, ces fameux tracés deviennent des terrains d'atterrissage pour les soucoupes volantes. Mais moi, pour être allé et les avoir vus, les lignes de Nazca, si les soucoupes volantes s'étaient posées là, ils se seraient enlisés dans le sable. Hein, parce que la façon dont les lignes sont faites, essentiellement, c'est que, comme il ne pleut pas, hein, c'est une des régions les plus arides de la planète, comme il ne pleut pas, la pierre en surface a été brûlée par le soleil. Donc, en surface, le sol, le sable, est un peu rougeâtre, brûlé par le soleil. Oui. Mais dès qu'on tasse un peu cette première surface, à quelques centimètres en dessous de la surface, on trouve un sable ou une pierre plus jaunie, moins rouge. Donc, il suffit de tasser un petit peu la surface pour créer ces fameuses lignes. T'sais, donc, il n'y a rien de très mystérieux. Il n'y a pas de mystère à la construction des lignes. Et si on fait un petit modèle sur une feuille de papier, on est capable de le reproduire à très, très grande échelle sur le sol. Donc, quand Von Daniken et ses acolytes disent « ces symboles ne sont visibles que du ciel », c'est vrai. Mais les peuples pré-Inca qui ont fait les lignes, hein, les Nazca, c'est le nom de cette société-là, ben les Nazca n'avaient pas besoin de voir la ligne dans son entièreté pour la dessiner. Hein, c'était en hommage aux dieux, puis c'était probablement aussi aujourd'hui, avec les recherches archéologiques, que c'était des corridors que les gens empruntaient dans des cérémonies pour attirer les bienfaits des dieux. Rien à voir avec les extraterrestres. Mais évidemment, c'est plus sexy de croire qu'il y a des vaisseaux spatiaux qui viennent et qui se posent.
Ben oui, vraiment. Oui.
Et Von Daniken, comme je l'ai mentionné, là, je sais que le temps file, puis il reste deux minutes. Mais bon, quand je t'ai mentionné un peu qu'il avait été à l'école, une éducation stricte à l'école catholique Saint-Michel de Freiburg, il a gardé un ressentiment par rapport aux catholiques et par rapport à la religion. Et là, il s'est mis dans ses ouvrages. Ça aussi, ça fait rêver quand même. Il prend des textes fondateurs religieux, hein, que ce soit de la Bible, le Mahabharata, l'islam, mais principalement la Bible, puisqu'il y a une culture chrétienne, hein, Von Daniken. Et donc, il reprend les textes de l'Ancien Testament, la Torah, qu'on a plus vulgairement appelé l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament aussi, quelque part, lorsqu'il parle des anges, mais c'est surtout l'Ancien Testament. Et là, il réinterprète ça à la saveur des extraterrestres. Hein, par exemple, l'apparition d'Ézéchiel, quand Ézéchiel dit « Je vais arriver une nuée, un nuage de feu, Dieu sur un trône », ça devient un vaisseau spatial qui arrive. Donc, Von Daniken réinterprète ces histoires-là en disant « C'est des vaisseaux spatiaux ». En réalité, ce qui est triste un peu ici, c'est que si on a la moindrement un peu de la connaissance de la façon dont ces gens écrivaient là, on comprend que tout ça est de la symbolique. Hein? On l'a déjà dit, je ne sais pas si c'est avec toi, j'en avais déjà parlé, mais tu sais, quand les anciens, les peuples, les Hébreux parlent de l'arrivée de Dieu, ben tu sais, les Hébreux, c'est un peuple de montagne puis un peuple de désert. Hein? C'est pas un peuple guerrier. Qui a des chars? Les Grecs ont des chars, les Romains ont des chars, les Égyptiens ont des chars. Donc, si tu tu veux aller faire la guerre, tu y vas pas en gougoune. Tu y vas sur un char, tu comprends?
Oui.
Donc, quand Ézéchiel dit « J'ai eu une vision, je vis arriver un char », le char représente une puissance. Les grands, les puissants ont des chars. Dieu, bien sûr, a un char. C'est un puissant. Mm-hmm. C'est l'Éternel. Il arrive sur un char. Il dit « Le char de feu hein, ». Von Daniken voit les tuyères d'un vaisseau spatial. Mais non, le feu, dans toutes les religions du monde, le feu, c'est Dieu. Donc, quand il dit « Je vais arriver un char de feu hein, », déjà là, il monte, il voit arriver une puissance céleste qui représente l'Éternel. Donc, quand on prend les textes, quand on a une connaissance sur la façon dont ces textes ont été écrits et catéchisés d'une certaine façon, on comprend quelle est la symbolique qui se cache derrière ça. Von Daniken lui fait table rase de ça. Il s'adresse à un public qui est peu au courant de ça et il leur dit, ben voilà, vous voyez bien, ici, on nous dit les dieux avec quatre ailes, avec quatre faces, des faces d'animaux, ben c'est des casques, ce sont des scaphandres. Et là, tu vois, il réinterprète ça de manière tout à fait incroyable. C'est bon. Mais bon, c'était du Von Daniken, oui. Mais ça nous a fait rêver, ça a marqué une génération. Et encore aujourd'hui, avec le décès de Von Daniken, on en parle encore aujourd'hui. Et la série à nos ancêtres, les extraterrestres, elle est tout aussi populaire que ce soit sur la chaîne Historia ou sur des chaînes anglophones en version originale. On voit que cette théorie des anciens astronautes, elle fait rêver, elle fait voyager. Et moi, même si je m'inscris en faux contre les théories de Von Daniken, je ne cache pas que sans Von Daniken, je me serais peut-être jamais intéressé aux Mayas, aux Incas, aux Aztèques et tout le reste. C'est Von Daniken qui m'a donné envie de savoir qui étaient ces grandes civilisations disparues.
Encore une fois, Christian Page, une édition des Radio X-Files pleinement enrichissante. Très, très, très intéressant. La bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver la semaine prochaine.
Oui, tout à fait. On est reparti pour une nouvelle saison, nous aussi.
Très, très, très content. Voilà. Donc, merci, Christian Page. On se retrouve, comme je le disais, la semaine prochaine. C'était les Radio X-Files sur les ondes de Choix 98.1 Radio X.
Radio X-Files.
Avec Christian Page.
Radio X, le show du matin. Weekend.
C'est aphrodisiaque pour moi.
Avec Carbo.
Ça n'a pas de bon sens.
Samedi et dimanche, 6h.
Radio X.
Présenté par Silencieux Proto. Votre voiture fait du bruit? Silencieux Proto évalue votre véhicule sans frais, répare et fabrique vos systèmes d'échappement sans rendez-vous. Silencieux Proto, à Québec et Lévis.
Capsule.
Radio X.
Tu cherches un voyage de chasse ou de pêche? Ne manque pas le Salon national de la pourvoirie, le plus grand rassemblement de pourvoirie dans l'Est du Québec. Conférenciers et boutiques sur place du 15 au 18 janvier au Centre des congrès de Lévis. Pourvoirie.net, c'est là que ça se passe. Massoif.com, c'est